Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nombreux à mon appel. Je voulais donner quelques informations préliminaires avant d'introduire notre conférencier. Nous allons faire la semaine prochaine, le 23 octobre, un café-débat sur l'énergie et société. Certains d'entre vous ont participé à ce type d'événement. C'est une discussion donc avec un intervenant. Le public pose des questions et autour d'une thématique qui est fixée à l'avance. Alors la thématique, c'est énergie et société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les enjeux des difficultés, c'est exactement le même problème qui va être évoqué ici, les difficultés sur les sources d'approvisionnement énergétique, quelles qu'elles soient, et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées pour résoudre ce problème. Alors là, ce n'est pas une conférence, c'est vraiment le public qui pose des questions. Ça va se passer, vous savez que l'année dernière, on faisait les cafés-débats à l'Argentique. Il y a eu un changement de propriétaire, donc on a changé de bistrot. Et c'est au Jardin des Saveurs. Jardin des Saveurs, c'est un petit resto sympathique tenu par un couple de Belges, qui est rue Aufèvre, 16 rue Aufèvre. Et c'est en sous-sol, il y a un sous-sol très sympa où on peut tenir à peu près une trentaine de personnes. Donc il y a déjà des inscriptions. Par contre, si j'en parle d'abord, c'est pour que vous rafraîchiez la mémoire, mais surtout que vous nous téléphoniez pour savoir si vous venez ou non. Tout simplement pour un problème d'attendance, puisqu'on va vous faire un petit goûter, on va dire, pour 10 euros. Et donc il faut que le restaurateur sache le nombre de personnes qui soient là pour s'organiser en conséquence. Donc si ça vous intéresse, donc l'intervenant ce sera Pierre Bachère, qui va être là ce soir, et qui a eu un petit problème d'attendance et qui s'est décommandé in extremis. Donc Pierre Bachère, c'est l'ancien président de la Société française d'énergie nucléaire Bourgogne, et ça a été dans sa carrière, ça a été le directeur adjoint de l'équipement d'EDF, et c'est lui qui a été vraiment l'opérateur du programme nucléaire français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il est très connu dans les milieux, disons, énergétiques, et c'est un conférencier inusable, et qui intervient. Quand je lui ai demandé de venir, tout de suite il m'a dit pas de problème, je viendrai. Donc si ça vous intéresse, venez, c'est sympathique, c'est convivial, ça dure 2 heures, de 5 à 7, hein, c'est comme le thé, et on discute avec l'intervenant. Hein. Alors, c'est moi qui fais le modérateur, c'est-à-dire je sers d'intermédiaire et j'essaye de canaliser un petit peu les débats. Mais ça peut être intéressant. Donc, s'il vous plaît, téléphonez au secrétariat pour nous faire savoir que vous venez. Merci. Donc, je vais introduire M. Jacques Bouchard. Donc, M. Jacques Bouchard, c'est le nouveau président de la Société française d'énergie nucléaire de Bourgogne. Alors, il faut savoir qu'il a été avant président de cette même association au niveau national. Et disons, M. Jacques Bouchard a fait toute sa carrière au commissariat d'énergie atomique. Donc il est ingénieur de l'École centrale de Paris et docteur en physique nucléaire. Il est entré en 1964 au CEA et il devient chef de la section de physique expérimentale en 1973, puis chef du service d'études nucléaires en 1975. À ce poste, il effectue des travaux principalement en support des réacteurs à eau sous pression et conduit également des études de physique pour le cycle du combustible. Jacques Bouchard devient chef du département des réacteurs à neutrons rapides à Cadarache en 1982. Il est nommé directeur des réacteurs nucléaires du CEA en 1990, puis directeur des applications militaires du CEA le 1er août 1994, ce qu'on appelle la dame dans notre jargon. Vous entendez souvent la dame, ce n'est pas une dame, c'est la direction des applications militaires. Et il met en place le programme de simulation qui remplace les tirs réels en Polynésie, hein, qui est le fameux laser de nom Mégajoule, voilà. Mégajoule, qui est dans la région bordelaise, qui est en phase finale de construction, comme je le sache. Hein. Vous nous ferez une conférence là-dessus la prochaine fois. Le laser Mégajoule. Et donc de 2000 à 2004, il est directeur d'énergie nucléaire du CEA. Il est conseiller de l'administrateur général du CEA depuis 2005. Jacques Bouchard est aussi professeur à l'École des Mines de Paris et était président de la Société française d'énergie nucléaire de 2001 à 2003, donc au niveau national. Alors, ce qui n'est pas mis dans mon petit CV, c'est là, c'est ce que j'ai mis et qui est sur la première planche. Il est président du Forum Génération 4. Donc, je vais lui laisser la primeur d'expliquer ce que c'est et ce que ça veut dire. C'est lui le mieux placé. Donc, c'est une organisation mondiale qui groupe un certain nombre de pays. Donc là, je vais lui laisser la parole. Hein. Je vous remercie. Donc, merci M. Juillot qui nous rejoint. M. Boussier, bonjour. Donc, merci d'assister à notre conférence. Donc, je laisse la parole à M. Bouchard. Merci.
Bien, merci les Fourniers, et puis bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de parler donc, de ces réacteurs de quatrième génération en introduisant un peu le sujet, quand même, parce que c'est un peu abstrait. Mais je voudrais dire tout de suite que ma conférence est un petit peu longue, mais j'espère pas trop, et surtout, je voudrais qu'elle puisse donner lieu à débat, des questions. On a parlé tout à l'heure de débat sur l'énergie. Il y aura effectivement pas mal de sujets là qui méritent, effectivement, si vous le souhaitez, d'en parler et de débattre. Alors en fait, l'énergie nucléaire aujourd'hui, je rappelle simplement que c'est 440 réacteurs dans le monde qui fournissent à peu près 16% de l'électricité mondiale, c'est pas négligeable, simplement pour rappeler que c'est exactement le même niveau aujourd'hui que l'hydraulique. L'hydraulique au plan mondial fournit également 16% de l'électricité, donc vous voyez, c'est tout à fait comparable. 88% de ces réacteurs sont des réacteurs à eau, un modèle qui est bien connu, qu'on utilise actuellement en France. Et puis une trentaine sont actuellement en cours de construction dans différents pays, sans parler bien sûr de tous ceux qui sont en projet. Alors, les atouts de l'énergie nucléaire, aujourd'hui, on peut les résumer comme indiqué ici. C'est d'abord une source d'énergie très compétitive. Aujourd'hui, incontestablement, l'énergie nucléaire est la moins coûteuse des sources d'énergie, à part l'hydraulique dans quelques pays. Et donc, on le retrouve par exemple au niveau européen, où le coût de l'électricité en France, le prix de l'électricité en France est le moins cher des pays européens. La sûreté est très bonne, j'y reviendrai, mais on fait encore des améliorations. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas de soucis majeurs avec la sûreté des réacteurs. Bien entendu, on a la préoccupation permanente de la sûreté, c'est-à-dire que finalement, dans le nucléaire, ça a toujours été la préoccupation fondamentale, mais elle l'est aujourd'hui encore peut-être plus qu'avant. Mais on a encore quelques possibilités d'amélioration, mais par contre, le bilan est tout à fait favorable. Évidemment, un élément extrêmement important pour le nucléaire, c'est pas d'émission de gaz à effet de serre, pas d'émission de gaz carbonique, qui est des quantités très négligeables dans la construction des centrales. Donc, effectivement, aujourd'hui, parmi les sources d'énergie, il partage l'avantage avec les énergies renouvelables de pouvoir effectivement lutter contre les risques de changement climatique dont on parle beaucoup. La sécurité d'approvisionnement, à tout point de vue, sécurité d'approvisionnement parce que le nucléaire devait avoir effectivement un approvisionnement constant, une production qui est absolument constante dans le temps, et puis sécurité d'approvisionnement aussi parce qu'elle nécessite peu de matières premières, et donc finalement les problèmes géopolitiques liés à l'approvisionnement des combustibles nécessaires ne sont pas aussi importants que pour les combustibles fossiles. Et puis en plus, je dirais quelques mots, ça permet des perspectives, en particulier pour la production d'hydrogène qui aujourd'hui sont importantes. Alors les bilans aujourd'hui, on utilise essentiellement des réacteurs à eau, vous savez qu'en France on n'utilise que ça pratiquement, et c'est une expérience irremplaçable dans la mesure où effectivement on a aujourd'hui pratiquement l'équivalent de 10 000 années réacteurs d'expérience, donc c'est quand même, on n'est plus au début de l'énergie nucléaire, dans les années 60-70 on tâtonnait pas mal sur un certain nombre de sujets, aujourd'hui on a une expérience industrielle qui est tout à fait importante. Et de ce fait, les réacteurs à eau, qui sont quand même encore une fois le modèle existant, resteront prépondérants jusqu'à la fin du siècle. Et au moins pour plusieurs décennies, parce que vous savez que la durée de vie des installations, aujourd'hui la durée de vie d'un réacteur, c'est 30 ans au départ, mais finalement on est en train d'aller vers 50, 60 ans. Et donc de plus en plus, on construit EPR par exemple, dont on va reparler, on construit EPR pour 60 ans de fonctionnement. Donc dès que tous les réacteurs que l'on construira encore dans les prochaines décennies seront pratiquement en service jusqu'à la fin du siècle. Alors malgré tout, il reste quelques défis pour le développement durable de l'énergie nucléaire. D'abord, la gestion des déchets hautement radioactifs. On a fait des progrès considérables dans ce domaine, que ce soit au plan technique ou au plan politique. Vous savez qu'il y a eu en particulier une loi importante qui a été votée l'année dernière, en juin 2006, qui en France permet effectivement, qui a permis de programmer finalement pour la suite tout ce problème de gestion des déchets nucléaires. On en parlera peut-être un peu. Mais malgré tout, au plan technique, il y a encore des progrès possibles et on travaille dessus. La maîtrise des risques de prolifération, qui aujourd'hui est effectivement un problème qui revient, je dirais, n'est pas nouveau. On a déjà parlé beaucoup dans le passé, mais il y a un problème qui revient dans la mesure où on imagine effectivement une diffusion plus large des programmes nucléaires et donc à nouveau une reprise effectivement de préoccupation sur les risques correspondants. Et puis enfin, la souplesse pour les applications variées. Aujourd'hui, en pratique, l'énergie nucléaire n'est utilisée que pour produire de l'électricité. C'est évidemment un vecteur extrêmement souple, extrêmement agréable, extrêmement pratique, mais qui malgré tout ne permet pas de répondre à tout et en particulier ne permet pas de répondre aux besoins d'énergie mobile. Alors dans ces conditions, puisqu'on a un système qui marche bien et puis on en est satisfait, pourquoi se poser la question d'une quatrième génération? Pourquoi se la poser et pourquoi se la poser aujourd'hui? Alors je rappelle d'abord très rapidement qu'on a distingue des générations dans les systèmes nucléaires. On a trois générations avec nous aujourd'hui. La première, c'était vraiment les prototypes, hein, ce qu'on a construit dans les années 60-70, qui était vraiment un peu tous les modèles. On essayait tout à l'époque et puis progressivement, ces réacteurs ont disparu et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de réacteurs de première génération qui soient en fonctionnement dans le monde. La seconde génération, c'est tous ceux qu'on a au contraire au plan industriel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au début des années 70 en particulier que finalement ce système de réacteurs à eau était extrêmement efficace, était vraiment au point mature et donc on a construit des parcs industriels à partir de là. Et l'essentiel a été construit dans les années 70-80. Donc c'est les 440, enfin, une majorité des 440 réacteurs dont je parlais tout à l'heure. La troisième génération, c'est celle qui est devant nous, c'est-à-dire qu'on commence à construire industriellement. Bon, on la représente symboliquement ici par le père, on en reparlera un petit peu plus, mais finalement, c'est ce qu'on est capable industriellement de faire de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire des réacteurs à eau améliorés, qui prennent en compte toute l'expérience de ce que l'on a fait jusque-là, et qui permettent effectivement de répondre encore mieux en termes d'économie et de sûreté notamment. Alors pourquoi se poser la question d'une quatrième génération? Il y a au moins deux réponses à ça. La première, c'est que quand on regarde effectivement les perspectives en matière d'énergie, la demande ne cessera pas de croître encore pendant plusieurs décennies. Et la demande d'énergie au plan mondial, elle est guidée essentiellement par la croissance de la population. La croissance de la population, il ne faut pas se faire d'illusions finalement, sur la partie 2000-2050, tous les instituts, tous les spécialistes sont d'accord. Cette croissance elle est inéluctable parce qu'elle est liée pratiquement uniquement à l'augmentation de durée de vie des populations dans des pays qui se développent. Donc finalement, ça c'est un facteur physique, j'allais dire, on ne peut pas le changer, même si la natalité tend à baisser dans certains pays, même s'il y a effectivement des mesures qui sont prises, plus ou moins, de toute façon on aura cette croissance de population. Alors comme par ailleurs, pour l'instant, il y a une majorité de pays, une majorité de la population qui a encore une consommation d'énergie relativement faible, très en dessous de ce que l'on peut considérer comme un minimum vital, eh bien finalement, le double effet fait que la croissance sera inévitable pendant les prochaines décennies. Alors, on peut la chiffrer plus ou moins favorablement, on peut être plus ou moins optimiste, plus ou moins pessimiste, ça dépend comment on le regarde, mais de toute façon, on s'attend à une croissance qui est encore importante. Alors, d'autre côté, on a l'effet de serre. On a l'effet de serre qui a, bon, vous avez pu vous rendre compte, on vient d'apprendre aujourd'hui que c'est quand même un sujet de prix Nobel. Bon, donc finalement, l'effet de serre, enfin, je dirais, on en a pris suffisamment conscience pour commencer à regarder comment on pouvait effectivement maîtriser le phénomène. Il a fallu quand même longtemps pour que les scientifiques s'accordent d'ailleurs sur l'importance, sur l'existence même et sur l'importance des risques associés à l'accroissement de l'effet de serre. On s'est beaucoup posé de questions et finalement, bon, aujourd'hui, la réponse est quand même claire, il y a effectivement un risque, ce risque il est d'autant plus important qu'on continue de faire un usage aussi abondant des combustibles fossiles, et malheureusement, quelles que soient les mesures qu'on pourra prendre, il continuera de croître encore pendant quelques décennies. Enfin, ça n'empêche pas d'essayer d'améliorer la situation pour la suite, et donc de réduire la consommation à plus long terme. Alors à partir de là, les instituts spécialisés, là c'est par exemple l'agence de l'énergie de l'OCDE, les instituts spécialisés essaient de faire des projections pour dire comment va-t-on évoluer dans le temps. Alors, on a une projection, le scénario 2030 de l'AIE. Bon, vous voyez que finalement, qu'est-ce qu'on constate là-dessus? On constate qu'ils partent d'une croissance de la population qui reste un peu en dessous de 9 milliards au niveau de 2050, donc c'est plutôt une prévision optimiste. La plupart des prévisions sont un peu au-dessus. On a une croissance de la consommation qui, entre aujourd'hui et 2050, est d'un petit peu plus d'un facteur de 1,5. Donc c'est quand même assez net. Et par contre, vous voyez, quand vous regardez les différentes couches correspondant aux différentes sources d'énergie, vous voyez qu'il va falloir attendre pratiquement 2030 pour pouvoir commencer à infléchir la consommation des combustibles fossiles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une inertie énorme dans le système. Les centrales existent, les moyens de transport existent, les producteurs existent, donc la demande est encore croissante. Et donc finalement, on a encore une consommation croissante de combustibles fossiles, pratiquement jusqu'en 2030, et c'est qu'à partir de 2030 qu'on pourra infléchir le total. Bon, on essaie d'aller. C'est un petit peu plus optimiste sur le charbon, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc finalement, la croissance des autres moyens de production qui sont représentés ici, le nucléaire, la biomasse et les autres renouvelables, la croissance, elle va se faire essentiellement à partir de 2030, et elle va se faire par contre de façon assez importante si on veut pouvoir couvrir effectivement le tassement, en tout cas le maintien à un niveau raisonnable de la consommation de fossiles. Donc c'est à partir de là, on voit que finalement, la croissance du nucléaire, qui est représentée ici par cette couche bleue, elle est quand même importante entre aujourd'hui, ce petit trait qui est ici, et puis 2050, où on voit apparaître une part tout à fait importante dans le système. Alors bon, ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous dire, finalement, on est quand même confronté à un problème aujourd'hui qui est de dire, où va-t-on? Quel est le besoin réel? Quel de quoi faut-il se préoccuper? On a des constantes de temps très longues, on sait qu'il faut 20 ans pour mettre au point un nouveau système, qu'il faut 10 ans pour construire une centrale, que ces centrales sont faites pour 60 ans. Finalement, de quoi a-t-on réellement besoin? Où va-t-on? Alors ça, j'ai repris le proverbe japonais parce que finalement, il a son importance. Hein, finalement, une vision sans action, c'est du rêve, ça c'est vrai, mais inversement, une action sans vision, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on se met à construire à toute vitesse des choses sans savoir ce qui se passera derrière, finalement, on risque de faire des choses assez catastrophiques. D'où la nécessité quand même de bâtir des scénarios et de travailler avec des scénarios plus ou moins plausibles, mais enfin, avec des scénarios finalement pour le futur. Alors là, vous en avez un exemple, c'est celui qui nous sert de base un petit peu aujourd'hui dans le forum Génération 4. On dit, bon, on prend un minima, on double simplement les besoins en énergie globaux au plan mondial entre 2005 et 2050. Encore une fois, c'est une prévision minimum, vraiment minimum au niveau de tous les instituts spécialisés. Et on double la part du nucléaire, ce qui veut dire que finalement, le nucléaire est augmenté d'un facteur 4, en gros. Donc ça fait passer effectivement de 360 gigawatts électriques, ce que produisent actuellement les 440 réacteurs, à 1400 à l'horizon 2050. C'est une progression énorme. C'est une progression énorme. Et là-dessus, je répète ce que j'ai dit au début, ce sera une majorité de réacteurs à eau, tout simplement parce que industriellement, c'est ce qu'on sera capable de faire, ce qu'on est capable de construire, ce qu'on sera capable de construire dans les deux ou trois prochaines décennies. Alors si on regarde ce scénario, est-ce qu'il a un certain réalisme vis-à-vis de ce que peuvent annoncer les différents pays ou les différentes zones géographiques dans le monde? Alors on s'aperçoit que oui, c'est assez réaliste. L'Amérique du Nord, par exemple, les États-Unis ont dit, nous, on va croître, on croît de manière importante, on ne sait pas exactement combien ça prend, enfin, ce sera probablement plus de 200 gigawatts, et si on ajoute le Canada et un certain nombre, bon, on arrive aux 300 gigawatts dans l'Amérique du Nord. Le Japon et la Corée, on sait à peu près où ils vont, on sait que 100 gigawatts, c'est l'ordre de grandeur. La plus grosse variation, évidemment, elle est ici. La Chine et l'Inde, chacun d'entre eux, et ça fait maintenant plus de 3 ans qu'ils le répètent à toute occasion, chacun d'entre eux a un programme pour avoir 250 gigawatts électriques en 2050, en nucléaire. Donc c'est effectivement des très gros programmes. Alors l'Europe reste une zone plus incertaine, puisque l'Europe reste la seule zone du monde dans laquelle il y a effectivement un temps de contraste entre certains pays qui sont pro-nucléaire, certains pays qui sont contre. Mais même avec ces contrastes, si on prend le renouvellement à la Russie, par exemple, qui contribue pour 30 dans les 160 actuels, la Russie annonce 100 à l'échéance de 2050. et ils sont réellement partis sur ce programme. Ils ont relancé de manière très forte la construction. Donc finalement, un scénario comme ça n'est pas totalement irréaliste. Personne ne garantit qu'il se réalisera, personne ne sait exactement combien il y aura, mais on peut imaginer quand même qu'on est dans ces ordres de grandeur. Alors face à ça, qu'est-ce que l'on a ? On a une offre industrielle. On a une offre industrielle, les fameux systèmes de troisième génération. Donc encore une fois, EPR est la première représentante, mais on retrouve dans ces systèmes de troisième génération, finalement, les deux catégories de réacteurs à eau qu'on utilise depuis le début de la seconde génération, c'est-à-dire les réacteurs à eau sous pression, comme on a en France, ou des réacteurs à eau brûlante, comme certains pays ont développé. Et on les retrouve avec des modèles qui sont proposés par pratiquement tous les grands constructeurs au plan mondial, donc EPR, c'est Areva, c'est le modèle européen, je dirais. AP1000, c'est Westinghouse, VER, OEMS, ça c'est les Russes, ça c'est les Coréens, la PWR, c'est japonais. Enfin bon, on va retrouver effectivement pratiquement tous les grands constructeurs, chacun a un modèle tout prêt, disons, pour développer. Et certains d'entre eux sont déjà soit effectivement en construction, comme EPR, soit en commande, voire même déjà réalisé comme la BWR au Japon, mais dans un modèle qui n'était pas encore tout à fait le modèle définitif de troisième génération. L'autre constat qu'on fait, mais c'est un petit peu différent, c'est que les faibles puissances n'hivergent pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, pour la préparation de cette troisième génération, les industriels avaient dit il va y avoir une forte demande à des puissances plus faibles, parce que 1000 MW c'est grand, pas toujours facile à gérer dans les réseaux, etc. En fait, bon, la logique économique fait qu'aujourd'hui, tous les modèles pratiquement qui sont ici sont des modèles de plus de 1000 MW ou plus, et on ne retrouve pratiquement pas de petits réacteurs réellement en projet ou en construction. Bon, alors l'EPR, effectivement, a une longueur d'avance sur ses compétiteurs, je dirais, essentiellement parce qu'il a été choisi pour la construction en Finlande et en France, et donc il est déjà en construction, alors que les autres sont encore une fois, pour l'essentiel, en projet, dans certains cas, ou encore sur le papier pour d'autres. Alors, si on dit on va faire 1200 gigawatts en réacteur à eau d'ici 2050, il faut commencer à se préoccuper de deux choses. D'une part, d'abord, de ce qu'on consomme pour y arriver, donc les ressources en uranium. Alors, les ressources en uranium, je devrais plutôt dire la consommation d'uranium, puisqu'on commence par là, la consommation d'uranium, en fait, en 2050, on arrive à, quand on fait le bilan, avec les 1200 gigawatts en réacteur à eau, etc., on arrive à peu près, suivant qu'on les construit plus ou moins vite, plus ou moins tôt, on a entre 5 et 8 millions de tonnes d'uranium qui sont déjà consommées. Surtout si on dit que ces réacteurs-là, ils sont pour 60 ans, et qu'on intègre tout ce qu'ils consommeront jusqu'à leur fin de vie, on arrive déjà à 17 millions de tonnes consommées. Alors 17 millions de tonnes, il faut savoir que c'est un petit peu plus que ce que l'on imagine comme réserve qu'on peut récupérer à 130 dollars par kilogramme. Un uranium, il y en a partout sur Terre. Il y en a des quantités phénoménales. Il y a des milliards de tonnes d'uranium sur Terre. Donc, en toute rigueur, on peut dire pour un nucléaire, pas de souci. Quelques milliers d'années, on en reparlera. Le problème, c'est que cet uranium, on ne le récupère pas au même prix partout. Si vous allez chercher de l'uranium dans le granit, ça va vous coûter cher. Aujourd'hui, on récupère de l'uranium dans des mines qui sont riches, qui sont faciles, on peut l'extraire relativement facilement, et cette limite de 130 dollars par kilogramme, bon, c'est déjà des mines un peu moins abondantes, mais malgré tout, encore, on fait une récupération relativement facile. Au-delà de ça, il faut aller chercher de l'uranium plus compliqué. Alors, il y a l'uranium qui est dans les phosphates, par exemple. On est en train, actuellement, il y a des pays qui travaillent assez sérieusement pour essayer de voir comment le récupérer, mais on sait déjà que ça va plutôt être dans la gamme 200 à 400 dollars par kilogramme. On peut aller chercher l'uranium dans l'eau de mer, alors là, il y en a des milliards de tonnes, mais il faut avoir de la patience pour filtrer l'eau de mer pour récupérer l'uranium. Et donc, c'est là, on dit, peut-être 1000 dollars par kilogramme. Il y a eu quelques expériences, les Japonais qui font tout, ont essayé. Ils ont quand même essayé quelques... Mais bon, c'est vrai qu'on va physiquement récupérer l'uranium, mais ça prend quand même du temps. Donc, c'est un problème économique. C'est un problème économique, mais qui est important. Parce que si on dit qu'on aura déjà consommé pratiquement toutes les réserves à des prix raisonnables avant la fin du siècle, ça veut dire qu'on va commencer à attaquer des réserves plus chères. Et si on commence à attaquer des réserves plus chères, soit par exemple, si on est à 200 dollars par kilowatt, on est pas loin de doubler quand même le kilowattheure produit par les réacteurs. Donc ça commence à doubler le coût du kilowattheure. Donc ça commence à être important au plan économique. Et donc on a une préoccupation. Encore une fois, ce n'est pas une préoccupation stricto sensu de ressources, parce qu'il y en a énormément, mais c'est une préoccupation économique de coût d'approvisionnement de cet uranium. Bon, ça, c'est la même chose, mais simplement schématisé, je passe. Alors, le second problème, c'est bien sûr les déchets nucléaires. Le second problème des déchets nucléaires, là, ici, je rappelle deux choses. Je rappelle d'abord que, il faut toujours avoir en tête les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur des déchets nucléaires, c'est En France, par exemple, où finalement on consomme essentiellement du nucléaire pour l'électricité, l'ordre de grandeur, c'est des déchets nucléaires produits pour la... qui proviennent de, finalement de cette production d'électricité, c'est de l'ordre de 1 kg par habitant et par an. Là-dessus, il y en a beaucoup plus de 90% qui sont de ce qu'on appelle des déchets de très faible activité, et donc qui sont en fait déjà stockés définitivement dans un centre à Soulaine, dans l'Aube, qui fonctionne depuis plusieurs années. Avant, il y en avait un autre dans la Manche. Et donc finalement, bon, on sait gérer ces déchets-là, c'est la même manière qu'on gère les déchets de radioactivité utilisés pour le médical ou pour d'autres applications. Par contre, ce qui reste, c'est le pourcent, 1% de ces déchets, c'est-à-dire 10 grammes par habitant et par an, qui eux sont vraiment des déchets à haute activité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les, faut pas s'en approcher, on ne peut pas les manipuler facilement, et qui en plus ont une durée de vie longue, c'est-à-dire qu'il faut s'en préoccuper sur un temps assez long. Alors qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ces déchets ? Ben on les met ici, vous voyez, on les met dans des puits, on les met dans des puits qui sont dans un grand bâtiment sur le centre de La Hague. Et quand même, ça donne une idée de l'ordre de grandeur de volume. Hein. Ce bâtiment, ben, c'est le même qui contient tous les déchets de la production électrique française depuis 20 ans. Donc ça fait quand même un grand bâtiment, quoi, mais c'est pas gigantesque. Alors par contre, c'est là que intervient la décision politique et intervient en particulier la loi qui a été votée l'année dernière. Il a été décidé effectivement de faire deux choses. D'une part, d'essayer encore de réduire cette quantité de déchets et d'en réduire surtout le contenu en noyau de longue vie, de façon à diminuer progressivement la radioactivité dans le temps, et puis en même temps de décider que malgré tous ces déchets iront finalement dans un centre de stockage définitif en formation géologique profonde, c'est-à-dire finalement dans un endroit où ils ne risquent pas de remonter facilement à la surface. Alors c'est pour ça qu'il y a, en particulier pour ce stockage géologique profond, des travaux qui sont menés dans un laboratoire souterrain à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, qui est ouvert déjà depuis quelques années. Donc finalement, si on se résume, on va construire des réacteurs à eau en grande quantité, on a une offre industrielle impeccable, ça va marcher très bien, mais on a deux problèmes quand même, c'est qu'on commencera à avoir des problèmes économiques avec l'approvisionnement en uranium, et puis d'autre part, on a quand même à faire encore des progrès sur le contenu de ces déchets nucléaires. Alors depuis le début, c'est un problème qui est bien connu. Alors, depuis le début, les scientifiques et les ingénieurs ils savent bien qu'il y a deux limites avec les réacteurs à eau. D'une part, un rendement thermodynamique qui est limité par les températures. Alors, on ne peut pas monter à des températures très élevées, donc on a toujours ce bon vieux Carnot qui est là et on a un rendement thermodynamique limité. Et d'autre part, on a effectivement cette consommation d'uranium qui n'est quand même pas très bonne. En gros, avec un réacteur à eau, on consomme à peu près 1% d'uranium qu'on extrait du sol. Donc on a cherché déjà depuis longtemps à pallier ces deux difficultés, d'une part avec des réacteurs à plus haute température, et puis d'autre part avec des réacteurs à neutrons rapides. Pourquoi des réacteurs à neutrons rapides ? Ben, tout simplement parce qu'ils permettent effectivement de consommer la totalité de l'uranium en produisant du plutonium et en brûlant le plutonium au fur et à mesure. Donc ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est quand même une évolution technologique qui est extrêmement complexe, d'une part parce que c'est des procédés nouveaux, bien sûr, mais surtout parce qu'il faut arriver à faire aussi bien que les réacteurs à eau, qui eux, encore une fois, ont des qualités tout à fait importantes. D'où le fait qu'on a créé une organisation internationale, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, une organisation internationale qui est dévolue finalement à la mise au point de ces systèmes de quatrième génération, et qui finalement va essayer d'organiser finalement toute la recherche et développement de façon à déboucher sur des systèmes qui soient industriellement applicables dans 20 ou 30 ans de maintenant. Alors, cette organisation internationale, vous en voyez ici les participants, vous voyez qu'il y a 13 pays qui ont signé la charte, c'est-à-dire qui se sont engagés finalement, qui ont dit d'abord on reconnaît qu'il y a besoin de développer l'énergie nucléaire à grande échelle, et d'autre part, on reconnaît qu'il y a besoin effectivement de prendre en compte les préoccupations que j'évoquais tout à l'heure. Et puis à partir de là, ben, ces pays-là s'organisent progressivement pour mener les travaux de recherche et développement qui permettent d'avancer sur différents critères. Alors les critères, on a repris ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire les critères de développement durable en disant ben, d'abord il faut mieux utiliser les ressources naturelles. Donc on sait qu'il faut pour ça introduire du cycle fermé et puis surtout des réacteurs à neutrons rapides. Donc on voit que si on ne fait rien, on va consommer de plus en plus d'uranium, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, finalement, si on introduit un réacteur neutron rapide, suivant qu'on les introduit un peu plus vite, un peu plus tard, bon, on infléchit progressivement la courbe et on arrive à se maintenir à des consommations raisonnables. De la même manière, réduire la production des déchets de longue vie, on l'a schématisé sur ce type de diagramme, où on voit finalement l'activité, la radiotoxicité, ce qu'on appelle la radiotoxicité des déchets en fonction du temps après l'extraction du combustible des réacteurs. Bon, si on met directement le combustible à la poubelle, ce que certains avaient imaginé à un moment, en particulier les Américains, qui disaient « non, ça ne fait pas, c'est pas grave, on va enterrer les combustibles, on a suffisamment d'uranium, au moins pendant quelques temps ». Donc, mettre directement les combustibles à la poubelle, ben, ça entraîne la courbe du dessus, hein, c'est-à-dire que finalement, c'est par ça qu'on met très longtemps, l'activité de ces déchets dure effectivement très longtemps. Et j'ai perdu ma flèche, voilà. Et donc, effectivement, on a mis en référence ici l'activité d'uranium naturel qui a servi à fabriquer les combustibles. Alors on voit qu'il faut effectivement des centaines de milliers d'années pour rejoindre ça. Alors, je vais des centaines de milliers d'années, je ne serai plus là pour y voir. Mais de toute façon, c'est quand même une préoccupation. Quoi. Alors, en enlevant le plutonium, c'est-à-dire en brûlant le plutonium sans arrêt, grâce à des surgénérateurs, on arrive effectivement à cette courbe-là. C'est déjà plus raisonnable, on ne parle déjà plus que quelques... 10 000 ans, bon, on retrouve des vieilles poteries dans les vaisseaux qui ont été coulés. On arrive à faire quelques... Bon, c'est quand même pas très tranquille non plus. Donc voilà, si on enlève tous les actinides, inversement, c'est-à-dire tous les noyaux lourds qui sont produits dans ces déchets et qu'on les brûle dans les réacteurs, on arrive à la courbe de gauche et à ce moment-là, on voit qu'on arrive à des choses beaucoup plus raisonnables, c'est-à-dire qu'on dégringole très vite. Alors, je ne dis pas qu'on ira directement jusque-là, mais en tout cas, la mise au point des systèmes de quatrième génération dans ce domaine-là vise clairement quand même à se situer plus près de cette courbe-là, c'est-à-dire avoir des réacteurs qui brûleront quand même un maximum de tous ces actinides. Au passage, un autre critère de développement durable qui est très important dans nos travaux, c'est le critère de sécurité d'une manière générale, c'est-à-dire résistance à la prolifération d'un côté, résistance au risque de terrorisme de l'autre côté. C'est effectivement deux préoccupations qui, comme je disais tout à l'heure, ont repris une importance depuis quelques années, et pour lesquelles, pour la première fois dans ce système de quatrième génération, on se préoccupe de ces choses-là dès le départ. Avant, on avait construit des réacteurs, puis après, on disait, bah oui, mais quand même, il y a un risque, bon, donc on se préoccupait des phénomènes de cette nature, je dirais, sur des engins existants, alors que là, on s'en préoccupe, disons, dès la conception. Donc, ça a entraîné les objectifs du forum Génération 4, qui sont ceux qui sont résumés ici. La maturité technique vers 2030, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les développements nécessaires. Bon, bien entendu, l'économie de la sûreté reste fondamentale, donc on continue de faire des progrès si on peut. En tout cas, on essaie de se maintenir au moins à l'excellent niveau atteint avec la troisième génération. Et puis, on fait des avancées significatives sur les affaires de durabilité que j'évoquais précédemment. Alors, partant de là, le forum international, donc on a réuni des experts, on a réuni une centaine d'experts de tous les pays pendant 2 ans pour définir quels étaient les modèles de concept, de réacteurs, de systèmes qui permettraient effectivement de répondre le mieux possible à ces critères de développement durable. Et on a sélectionné, de manière un peu arbitraire, enfin quand même, on a sélectionné 6 modèles qui sont schématisés ici. Donc, la majorité sont des réacteurs à neutrons rapides, pas de surprise, puisqu'un des objectifs principaux, c'est encore une fois de brûler les actinides, d'obtenir les actinides. Donc, majorité de réacteurs à neutrons rapides, simplement avec différents types de technologies, disons, de caloporteurs, de technologies de fonctionnement. Et puis, un réacteur à haute température, quand même, pour essayer de voir ces problèmes de production d'hydrogène et d'ouverture, finalement, sur l'utilisation du nucléaire dans des applications pour l'énergie mobile, et puis un modèle un petit peu plus compliqué, un petit peu plus exotique, les réacteurs à sel fondu, mais qui, si on arrivait à définitivement le mettre au point, offrirait pas mal d'avantages au plan du fonctionnement. Alors, à partir de là, je vais reprendre rapidement quelques-uns des thèmes de développement pour vous montrer ce que ça peut représenter en termes d'évolution technologique. Alors d'abord, le recyclage global des actinides, c'est essayer de brûler tous ces déchets. Alors ça, c'est pas tout à fait une partie réacteur, mais il n'y a pas qu'une partie réacteur. Si on regarde finalement le scénario, je reprends le scénario tout à l'heure, c'est-à-dire on a 1400 gigawatts électriques en 2050, dont 1200 qui sont avec des réacteurs à eau, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on aura produit plus d'un million de tonnes de combustible usé qui contiendront environ 2500 tonnes de plutonium. Donc on voit que c'est quand même, on a effectivement un problème d'utilisation correcte de ces ressources, il est hors de question pour nous, quand on regarde des chiffres comme ça, bien sûr, il est hors de question de dire on va mettre tout ça à la poubelle, on va enterrer tout ça, il faut bien l'utiliser intelligemment. Alors, c'est donc des quantités importantes, il y a des quantités d'autres actinides, c'est-à-dire d'autres noyaux lourds qui ne sont pas négligeables, qu'il faut considérer aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, on s'en préoccupe, en France en particulier, on recycle le plutonium dans les réacteurs à eau. C'est-à-dire finalement, on se préoccupe quand même de le retirer des combustibles à la fin du fonctionnement du réacteur, de le récupérer, et à partir de là, de refabriquer les combustibles qui contiennent ce plutonium de façon à en brûler une partie. Donc ça, ça marche, mais ce n'est pas une étape finale, c'est une étape intermédiaire qui permet effectivement de préparer la suite. Alors la suite, ce serait effectivement de pouvoir arriver à faire un recyclage global des actinides, c'est-à-dire finalement ne plus faire de séparation d'éléments purs pour éviter les risques de prolifération, surtout si on commence à utiliser ça de plus en plus dans des régions variées dans le monde. Donc ne plus séparer d'éléments purs, ne plus avoir de risque de transport ou de détournement d'éléments purs. Mettre le minimum, encore une fois, de ces noyaux lourds dans les déchets, donc réduire ce que je montrais tout à l'heure pour la courbe d'activité à long terme. Et puis, bien, si on les a séparés et si on ne veut pas les mettre dans les déchets, il faut les brûler. Et donc d'avoir des réacteurs qui soient adaptés pour brûler ces éléments-là. Donc c'est schématisé sur ce schéma, enfin sur ce diagramme, où on voit finalement, on arrive à quelque chose de relativement simple sur son principe. C'est-à-dire qu'il y a des réacteurs de quatrième génération, le réacteur, modèle réacteur neutron rapide, va produire des combustibles usés, au traitement, fabrication, tout ce qui est actinide va retourner dans le réacteur, et finalement les seuls déchets utiles se trouvent vraiment les productions elles-mêmes, c'est-à-dire finalement ce qu'on ne peut pas d'aucune manière réutiliser. Donc tout ça, ça répond bien aux besoins, c'est-à-dire ça répond bien aux trois préoccupations, ressources, déchets et sécurité non-prolifération. Ceci dit, il faut le développer. Donc ça, c'est du développement en cours, c'est des travaux, et ça fait partie effectivement des travaux de la quatrième génération, pour lesquels il y a effectivement encore quand même des choses importantes à faire, parce que aussi bien au niveau des procédés de traitement qu'au niveau du réacteur eux-mêmes, on n'est pas encore, tout à fait à ce niveau-là de développement. Alors ensuite, la conception des réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à neutrons rapides, c'est pas nouveau, on avait Superphénix qui a fonctionné quelques années, qu'on a arrêté il y a une dizaine d'années maintenant. Bon, alors pourquoi finalement, pourquoi se reposer la question et pourquoi ne pas reprendre directement le dossier de Superphénix et reconstruire Superphénix? Je crois qu'il y a encore des gens à Réva qui peuvent nous construire Superphénix demain matin. Donc le problème c'est pourquoi changer, quoi. Alors quoi de neuf dans la conception des réacteurs à neutrons rapides? Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a la volonté de réouvrir le dossier du caloporteur. Ah, ça, c'est une vieille histoire. Ça, la vieille histoire, c'est que depuis le début, les spécialistes ont dit que le bon caloporteur, c'est le sodium. Finalement, pour les réacteurs neutrons rapides, on ne peut plus utiliser l'eau, parce que l'eau, ça ralentit les neutrons. Donc, on est obligé d'utiliser soit un métal liquide, soit un gaz. Et finalement, les techniciens, dans leur expertise, on dit finalement, bon, la bonne solution, c'est le sodium, ouais, un excellent caloporteur. Vraiment, il a toutes les qualités de ce point de vue-là. Bon, certes, c'est un métal liquide, c'est pas très agréable à travailler avec, mais enfin bon, voilà, comme ça, quoi. Et donc, c'est la bonne solution. Du coup, comme c'était la bonne solution, tout le monde est tombé dessus. On dit, voilà, le sodium, c'est l'horreur, les risques avec le feu de sodium, les réactions sodium-mole, tous ces machins-là, ça va être la catastrophe. On a mis un peu le haro sur le sodium à l'époque, vraiment de manière remarquable. Alors en fait, je crois qu'il ne faut pas, dans ces domaines-là, il ne faut pas être trop extrême et trop tranchant. Sodium, certes, a beaucoup de qualités. Il n'y a pas que des qualités, puisqu'en particulier, il y a cette réactivité chimique qui est assez forte. Au passage, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais il y a mauvaise réputation en partie à cause de l'éducation, à cause de l'enseignement. Dans les lycées, parce que dans le lycée, vous avez tous passé en classe de seconde ou en classe de première, vous avez mis un petit bout de sodium dans l'eau, puis ça fait pshhh, vous allez dire, vous voyez, là, un réducteur, hein, ça fait une réaction. Bon, alors en fait, pourquoi on ne vous a pas dit pourquoi on utilisait le sodium pour faire ça? Parce que c'est moins méchant. dans tous les métaux qu'on peut utiliser pour faire des réactions comme ça, c'est effectivement celui qui n'est pas. La réaction n'est pas trop violente quand même. Bon, enfin, peu importe, donc toujours est-il que le sodium n'a pas que des qualités, même s'il en a d'autres. Donc on a dit qu'il faut réouvrir quand même le dossier, et donc on a réouvert le dossier en disant qu'il y a d'autres caloporteurs possibles. Il y a le plomb c'est un peu lourd, mais enfin bon, après tout, ça a des qualités. Les Russes ont utilisé le plomb, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Puis là, il y a le gaz, on peut prendre un gaz. Alors les gaz, l'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup d'espace pour les gaz, hein, par refroidissement à gaz, c'est toujours plus volumineux qu'un refroidissement liquide, donc bon, enfin bon, pourquoi pas quand même. Et puis l'eau supercritique. Les grands défenseurs de l'eau ont dit, mais il y a quand même l'eau supercritique. C'est vrai que l'eau liquide telle qu'on l'utilise dans nos réacteurs actuels, on ne peut pas vraiment pour un réacteur de tourner, puis ça ralentit trop les neutrons. Mais si on prend de l'eau supercritique, les fluides supercritiques, c'est un truc un peu particulier, c'est un comportement d'un gaz qui peut avoir une densité intermédiaire entre un gaz et un liquide. Quoi. Donc l'eau supercritique, effectivement, ça permet d'avoir quand même pas trop de noyau d'hydrogène, donc de pas trop ralentir les neutrons, puis en même temps, ça permet de faire du refroidissement un peu meilleur qu'un gaz. Un gaz comme un gazeux, si je puis dire. Bon, donc on a rouvert ce dossier, et puis, alors surtout, on a de nouvelles spécifications par rapport à ce qu'on a fait dans les années 80, donc la construction du Superphénix. On a de nouvelles spécifications. La première, c'est d'abord les coûts d'investissement. C'est-à-dire, c'est trop cher. Il faut absolument qu'un réacteur à neutrons rapides de 4e génération ne soit pas plus cher que le PR. Bon, donc ça, c'est une limite. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle l'inspection en service, c'est-à-dire que les autorités de sûreté, quand il se passe quelque chose sur un réacteur, ils disent « Bon, attendez, vous arrêtez, puis vous allez voir. Hein, vous allez voir, vous allez vider le cœur, puis vous allez regarder s'il n'y a pas une fissure dans la cuve, s'il n'y a pas un problème, etc. » Alors ça, avec un réacteur en haut, c'est vrai que ça marche bien. On peut aller voir relativement facilement. Il faut arrêter le réacteur quand même, enfin bon. Mais ça se passe dans des délais raisonnables. Avec un réacteur à métal liquide, c'est plus du tout la même chanson. Donc c'est effectivement compliqué, et c'est un des critères les plus difficiles à respecter pour la suite. Et puis, il y a la résistance à la prolifération. J'en dirai un mot. Alors, l'économie, d'abord, on a quand même tiré le bilan du Superphénix de manière positive, je dirais, puisqu'il y a eu un projet européen qui a été fait à la fin des années 90, qui s'appelait l'European Fast Reactor, qui a permis, finalement, à partir de toute l'expérience de construction et de fabrication du Superphénix, qui a permis de définir un projet qui était nettement amélioré au plan des coûts. Donc on a fait tout ce projet, on l'a chiffré et tout, et on est quand même arrivé au fait que finalement, en coût de production d'électricité, ce ne serait pas très différent de PR, donc il faudrait encore faire quelques progrès, mais ce n'est pas très différent, mais surtout au fait qu'en coût d'investissement, on était encore 30% plus cher que PR à puissance équivalente. Et ça c'est un élément tout à fait majeur pour la suite. Pourquoi c'est un élément majeur? Parce qu'on peut fausser tout de suite la discussion, puis dire, c'est pas très grave, on attend un petit peu, le prix de l'uranium va augmenter, il augmente déjà actuellement, mais continuera d'augmenter. Donc le prix de l'uranium va augmenter, puis à partir d'un certain moment, ben, le coût finalement, le coût de production des réacteurs à eau, il sera grainé par l'uranium, et donc à un certain moment, ben, il va être plus cher, on va grimper comme ça, puis il va être plus cher de toute façon que le coût de production des réacteurs à eau trop rapide, même s'ils ont 30% plus cher en investissement. Alors ça c'est un raisonnement dangereux. Ça c'est un raisonnement qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment dangereux parce qu'en fait, c'est vrai, en coût de production, en tout trigger, ce serait vrai, la réalité, mais le problème, c'est que la barrière, elle n'est pas tellement en coût de production, elle est dans le coût d'investissement. Pourquoi elle est dans le coût d'investissement? Parce que le schéma, c'est ça. Finalement, pour construire un réacteur nucléaire, il faut 10 ans. Donc pendant 10 ans, on dépense de l'argent. Pendant 10 ans, on dépense de l'argent et on ne reçoit rien. Ça, c'est dur hein, pour le monde industriel, dépenser pendant 10 ans sans rien recevoir. Ça, c'est très très dur. C'est ça le problème de financement des réacteurs nucléaires. Hein, centrale nucléaire, il faut dépenser de l'argent pour... Ah, après, vous avez la poule aux œufs d'or. Hein. Après, vous avez la poule aux œufs d'or, ça rapporte, c'est le tiroir caisse, hein, ça dégringole, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir franchi les 10 ans. Et puis en plus, certains disent, ouais, les 10 ans, ouais, bah, peut-être que ce sera douce, finalement, que ça va traîner, ou bon. Donc, il y a effectivement un problème de... Et donc, plus le coût d'investissement est élevé, plus cette barrière de la construction devient de difficilement franchissable. Donc c'est finalement la pénétration. La pénétration, c'est ça qui aujourd'hui est le frein au redémarrage des programmes nucléaires dans ce pays, en particulier aux États-Unis, où il y a des problèmes où financer 10 ans d'investissement sans revenus, les banquiers aux États-Unis, ils sont. Hein, donc c'est effectivement un problème difficile. Et donc finalement, plus le coût d'investissement est élevé, plus le problème est difficile. Alors bon, ceci étant, donc, on a quand même continué de travailler sur ces réacteurs à neutrons rapides. D'abord, il y en a un autre en France qui continue encore de fonctionner actuellement, qui s'appelle Phoenix, qui est à Marpoule. Bon, malheureusement, on va bientôt l'arrêter quand même, parce qu'il commençait mieux, lui, mais je veux dire, il a fait, effectivement, il a beaucoup aidé pour faire des progrès, déjà, par rapport à ce qu'on connaissait dans les années 80, et on essaie d'utiliser au maximum encore aujourd'hui pour ces progrès. Alors, en particulier, il nous a permis de mesurer pratiquement cette difficulté sur l'inspection en service que j'évoquais tout à l'heure, hein, il a fallu développer pour pouvoir aller voir dans quel état étaient les structures internes du réacteur Parce que la sûreté nous avait dit, oh là, mais il y a peut-être des risques, le supportage du cœur, la partie qui est au-dessus, tout ça, vous êtes sûr que c'est vraiment, c'est pas de problème avec tout ça. Comme on ne voit rien, évidemment, on ne peut pas garantir, hein, on garantit uniquement par le fait qu'on a construit dans des conditions qu'on estime suffisamment sûres. Alors on était obligé d'aller voir tout. On était obligé d'aller voir, alors on était voir par les côtés, on a mis des moyens de radiographie, dans tous les sens. On a été voir par-dessus, on a baissé un peu le niveau de sodium, on a introduit des caméras, des bulles, machin. Bon, donc on a regardé beaucoup de choses quand même. Finalement, on a fait une inspection très détaillée de l'ensemble, ça a pris 2 ans. Pour mettre au point les systèmes, de faire. Ça a pris 2 ans. Donc finalement, ça nous a permis à la fois de mesurer la difficulté réelle et puis en même temps de voir comment il faudrait faire pour essayer de la contourner. Donc ça, c'est un des apports nombreux, j'ai cité celui-là, mais c'est pas le seul, c'est un des apports nombreux de Phoenix dans le système. Actuellement, on y fait beaucoup d'irradiation de combustibles prototypes qui contiennent des actinides de toute nature, puisque c'est des déchets qu'il faut brûler. Et donc tout ça, c'est effectivement un apport qui permet de progresser. Alors on n'est pas les seuls à continuer de travailler sur l'extrait de l'eau, il y a même qui ont beaucoup travaillé ces dernières années. Alors les Russes, eux, ont toujours une centrale de 600 MW qui fonctionne. Bon, elle fonctionne. Ils gagnent de l'expérience. Par contre, ils n'ont pas fait énormément d'autres progrès dans les différentes périodes parce qu'ils avaient quand même des difficultés financières ces dernières années. Maintenant, ça va mieux avec le prix du gaz. Mais ils sont repartis dans l'investissement d'un nouveau réacteur. Mais on n'en sait pas beaucoup plus à ce stade-là. Les Japonais ont un prototype un peu de la même taille que Phoenix, qui malheureusement a très peu fonctionné jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu un problème de fuite au début et puis qu'ils ont eu ensuite un problème politique pour leur démarrer. Mais enfin, il est quand même prévu qu'ils redémarrent enfin l'an prochain. Et ils ont travaillé beaucoup sur le projet japonais, enfin sur le projet suivant, autrement dit sur un réacteur japonais de grande taille pour un neutron rapide. Ils ont mis au point un système à 500 MW électrique. Ils ont quand même un des projets les plus avancés aujourd'hui au plan mondial. Et ils ont accompagné ça, de travaux de recherche et développement dans tous les domaines, de façon à essayer de répondre au mieux aux questions que j'évoquais au début. Alors, on peut citer aussi les Indiens, bien sûr. Les Indiens ont un réacteur expérimental qui fonctionne depuis maintenant une vingtaine d'années. Un petit réacteur, relativement, par rapport à ce que j'évoquais jusqu'à présent, c'était un 60 MW. Mais par contre, ils sont en train de construire un réacteur de 500 MW. Pour les connaisseurs, c'est pratiquement le projet européen divisé par 3. Hein. Une photocopie réduite à l'échelle 3 du projet européen. Enfin bon, toujours est-il que c'est un réacteur de 500 MW qui devrait être terminé dans 2 ou 3 ans d'ici et qui permettra effectivement, là encore, d'avoir une expérience assez complète sur un système qui, sans avoir forcément tous les progrès qu'on souhaite faire dans la quatrième génération, permet quand même de tester des solutions intermédiaires. Enfin, les Chinois ont aussi un réacteur expérimental en construction actuellement. En dépit de la taille du bâtiment, ce n'est qu'un 60 MW. Bon, enfin bon, ils ont vu grand sur le béton, mais ça, on verra à l'usage comment ça se passe. Donc, finalement, le forum international, aujourd'hui, il y a quelques pays, il y a à peu près 7 ou 8 pays du forum qui travaillent activement sur le réacteur rapide à caloporteur sodium. Encore une fois, dans cette recherche à la fois de progrès sur le recyclage des actinides, sur la réduction du coût d'investissement, sur l'approche de sûreté, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a technologiquement, qu'est-ce qui se cache derrière les progrès qu'on essaie de faire actuellement? Il y a d'abord quand même une nouvelle réflexion sur la conception même de ce type de réacteur, non pas dans la partie du cœur, qui est bien définie, mais dans la partie de conversion d'énergie. Et en particulier, l'idée de remplacer un circuit eau vapeur, qui est un peu pénalisant dans cette affaire, par un circuit gazeux, si possible un circuit gaz carbonique supercritique, parce que là encore on aurait l'avantage de la densité. Ça c'est quand même un travail sérieux qui est actuellement en fait et qui permettrait vraisemblablement de supprimer ou de réduire en tout cas le circuit intermédiaire, parce que vous savez pas que dans ces réacteurs au sodium, on a le sodium du circuit primaire qui échange avec un autre circuit de sodium avant d'aller vers un circuit eau vapeur. Ceci pour séparer les risques radioactifs qui sont dans le circuit primaire et les risques chimiques qui sont au niveau de l'échangeur entre le sodium et le circuit au vapeur. Donc on a mis un circuit intermédiaire pour échanger, et ce circuit intermédiaire forcément est une partie du surcoût de ce type de réacteur, donc on cherche à le supprimer. Bon, il y a d'autres Pardon. Il y a d'autres progrès qui sont recherchés. En particulier, j'ai essayé de bénéficier du taux de combustion qui peut être important. La durée de vie du combustible, pour reprendre notre vocabulaire, la durée de vie du combustible dans ces réacteurs peut être assez longue, peut atteindre la dizaine d'années, voire au-delà. Et donc, on est en train de regarder comment on pourrait bénéficier de ça pour essayer de réduire les systèmes de manutention. Parce que là encore, la manutention sous sodium, c'est jamais quelque chose de très facile. Donc, vous voyez quand même, il y a des travaux et finalement le Forum international va essayer de gérer un petit peu le partage de ces travaux entre les différents laboratoires. On partage, les Américains font ça, les Japonais font ça, nous on fait ça, d'autres font autre chose. Bon, on arrive à peu près pour l'instant à travailler sur ces bases-là. Alors je vous disais, il y a d'autres solutions qui sont réouvertes, disons, par rapport au plomb, par rapport au sodium. Alors d'abord, il y a le plomb. Alors le plomb, c'est effectivement, il a été utilisé par les Russes pour des réacteurs de propulsion navale, pour des sous-marins. Effectivement, mettre un réacteur au sodium dans un sous-marin, là, quand même, compte tenu de la compatibilité du sodium et de l'eau, c'était quand même pas très génial. Donc, ils se sont dit, il faut chercher quelque chose de plus acceptable, et ils ont pris le plomb. Alors, en fait, ils avaient pris le plomb au départ, puis ils ont assez vite changé pour un détectif plomb bismuth, mais ça, c'est des problèmes essentiellement de résistance à la corrosion. Et bon, donc, ils ont une expérience, il y a eu quand même un certain nombre de sous-marins qu'on tournait avec. Bon, comme toujours, côté russe, on n'est pas toujours très sûr du bilan exact en termes d'accident ou autre fantaisie. Mais enfin bon, il y a eu effectivement une expérience. Bon, alors, pourquoi on regarde ça à nouveau aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on s'est posé la question d'un système robuste qui ne serait pas forcément optimisé, comme le réacteur sodium, il est vraiment optimisé au point de vue caloporteur, parce que le sodium, c'est l'idéal, c'est un caloporteur, il a toutes les vertus, hein, plan thermodynamique, c'est vraiment un excellent caloporteur, le plomb est moins bon, mais par contre, bon, il n'y a pas ce risque chimique avec le plomb, donc finalement, on cherche quelque chose d'un peu robuste pour faire des petits réacteurs qui pourraient être installés dans des coins un peu perdus dans le monde, enfin, les Américains voulaient en mettre en Alaska, d'autres, bon, les Russes en nord de la Sibérie, tout ça, bon, je veux dire, dans des coins où on va parler tous les jours pour mettre des petits réacteurs avec un système un peu plus robuste. Le gros avantage d'un réacteur rapide dans ce cas-là, c'est qu'on peut faire, on peut aller carrément faire un cœur de 30 ans. C'est-à-dire faire un cœur qu'on met dans le réacteur, qu'on ne touche plus. Pendant 30 ans, on laisse le cœur dans le réacteur. Si le caloporteur est suffisamment simple pour ne pas poser trop de problèmes. Bon, donc ça, c'est un travail qui se développe actuellement. On verra un peu ce que ça donne. Pour l'instant, on n'a pas de conviction définitive. Je dirais la certitude majeure, elle est quand même sur ces problèmes de corrosion. Si vraiment on a un problème de... Alors, une autre difficulté, c'est que le plomb n'est liquide qu'à partir de 400 degrés, donc il faut maintenir le réacteur à une température supérieure à 400 degrés tout le temps. C'est pas très agréable. Le petit plomb bismuth, c'est un peu en dessous, mais enfin bon, c'est 250 grammes, donc on n'est pas non plus toujours à la facilité. Bon, alors ensuite, il y a la possibilité d'utiliser un gaz. Je disais tout à l'heure, pour un réacteur à neutrons rapide, si on parle d'un réacteur à neutrons, effectivement, il y a qu'à prendre un gaz pour faire le caloporteur. Alors un gaz, le problème, c'est que le seul gaz qui a une efficacité suffisante pour faire ce genre de choses, c'est l'hélium. Alors l'hélium a beaucoup de vertus, puisque l'hélium est chimiquement neutre, l'hélium peut monter en température autant qu'on veut, donc finalement, un réacteur à neutrons rapide refroidi, un caloporteur hélium, ça a effectivement beaucoup, c'est très attirant. Alors il y a deux difficultés. La première, c'est que, encore une fois, un refroidissement gazeux, ça prend de la place. Donc ça veut dire que le cœur lui-même, il va y avoir moins de place pour les matériaux fissiles, donc il faut les faire plus denses. Et puis, d'autre part, un gaz, ça peut s'échapper facilement, surtout l'hélium d'ailleurs. Et donc, finalement, il faut garantir, effectivement, qu'en toute situation, même s'il y a perte du fluide de refroidissement, s'il y a perte d'hélium, tout se passera bien au niveau du fonctionnement du réacteur. Donc c'est effectivement les travaux qui ont débuté actuellement et qui cherchent à répondre à ces questions-là, sachant qu'encore une fois, l'enjeu est important, parce que si on arrive à faire fonctionner correctement un réacteur à neutrons rapide avec un porte-à-gaz, on a gagné sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois le réacteur à neutrons rapide qui règle les freins de plutonium, actinide, etc., et en même temps, on a un réacteur à très haute température, donc on peut faire des applications qu'on veut. Donc c'est quand même effectivement très séduisant, mais comme tout ce qui est très séduisant, c'est techniquement assez compliqué. Alors, une des difficultés, c'est en particulier de mettre au point un combustible, quoi, parce qu'on verra après que pour les réacteurs à haute température classique, disons qu'ils ne sont pas à neutrons rapides, On utilise des particules comme celle qui est indiquée sur la gauche de la figure, là, des particules qui permettent de, je vais reprendre ma flèche, voilà. Des particules qui permettent effectivement d'isoler le combustible et de résister à des températures très élevées, 800, 1000 degrés, plus s'il faut. Donc ça, c'est très bien, sauf que c'est une densité très faible de matériaux fissiles, quoi. Donc pour pouvoir fonctionner à un temps rapide, il faut aller plus haut. Il faut augmenter la densité. Et donc, bon, où on fait des particules avec un noyau plus gros, mais c'est déjà plus compliqué et plus difficile, où on passe carrément à d'autres versions, des plaquettes, des cylindres, des fils, enfin, il y a des travaux qui sont menés dans toutes ces affaires-là. Donc c'est vraiment un développement d'un combustible nouveau, c'est une des affaires qui est effectivement un des défis qui sont sérieusement menés actuellement pour tenter de réussir cette affaire des réacteurs à neutrons rapides refroidis à gaz. Au passage, ça veut dire qu'on a repris ces dossiers-là de manière totalement différente de ce qui avait été fait il y a une vingtaine d'années, quoi. C'est-à-dire que les objectifs nouveaux nous ont obligés, finalement, à nous placer dans une situation différente et d'avoir, effectivement, la possibilité, en particulier, de traiter ces problèmes de combustion d'actinide de façon tout à fait explicite. Alors, un autre problème qui intervient dans ce développement des réacteurs de neutrons rapides, c'est encore une fois, bon, d'abord il faut du plutonium pour les démarrer, donc on a vu tout à l'heure que, on peut le revoir d'ailleurs, que bon, des quantités de plutonium, on ne va pas en manquer théoriquement en plein mondial. Hein. On aura 8500 tonnes de plutonium dans les combustibles usés au milieu du siècle. Bon, à partir de là, il faut 10 tonnes pour démarrer un réacteur de neutrons rapides, vous avez vite fait le calcul, on peut en démarrer pas mal. Il n'y a qu'une difficulté, c'est que les tonnes de plutonium ne sont pas forcément là où on voudra démarrer les réacteurs. C'est-à-dire que pour un milieu du siècle, les tonnes de plutonium, elles sont essentiellement en Amérique et en Europe. Et les gens qui vont vouloir démarrer des réacteurs à neutrons rapides à grande échelle, c'est les Chinois et les Indiens. Donc il faudra quand même, il faudra voir comment on réussit à transposer ça. Mais bon, c'est partie des problèmes qui sont sur la table. Mais, non, je reviens en arrière, pardon. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise, ouais. Voilà. Donc au départ, si on arrive à régler ce problème de répartition mondiale du plutonium, au départ, on ne devrait pas avoir besoin d'avoir des gains de régénération importants, c'est-à-dire qu'au départ, on va essentiellement utiliser le plutonium qui vient des réacteurs à eau pour faire fonctionner ces réacteurs à neutrons rapides. Après, il faudra quand même arriver à faire en sorte qu'ils soient suffisamment surgénérateurs pour qu'eux-mêmes créent du plutonium pour leurs successeurs. Mais on a le temps de le faire. Par contre, il faudra se préoccuper d'ici là, et c'est pour ça que c'est dans les travaux du forum actuellement, il faudra se préoccuper quand même de trouver des solutions suffisamment résistantes à la prolifération. Et encore une fois, on veut pouvoir mettre du nucléaire dans beaucoup de pays, y compris dans les pays qui ne sont pas forcément très stables politiquement, ou tout ce qu'on voudra. De toute façon, ceux qui sont stables politiquement aujourd'hui ne sont pas forcément demain, donc de toute façon, il y a toujours le problème. Donc la réalité, c'est qu'il faut arriver quand même à des solutions qui soient suffisamment résistantes en elles-mêmes à la prolifération pour qu'on n'ait pas de soucis majeurs. Sachant qu'encore une fois, la prolifération n'est pas liée directement au nucléaire civil. Hein. On pourra arrêter tout le nucléaire civil dans le monde. Il y aura encore des risques de prolifération, parce qu'il suffit d'avoir un bouquin de physique et que d'uranium, on peut faire de la prolifération. Donc je veux dire, c'est pas totalement lié, mais c'est pas pour autant que le nucléaire civil doit faciliter la prolifération. Donc effectivement, il faut veiller à ce que les solutions qui sont utilisées soient suffisamment bonnes dans ces termes-là. Donc voilà, ça c'est le problème, encore un des problèmes qui reste en termes de développement sur les réacteurs à neutrons rapides. Alors un mot pour terminer peut-être sur la production d'hydrogène. Donc je disais tout à l'heure que, effectivement, on regarde aussi la possibilité que ces systèmes de quatrième génération puissent utiliser le nucléaire à faire autre chose que l'électricité, et en particulier à répondre aux besoins des énergies mobiles. Alors les besoins d'énergie mobile aujourd'hui, je ne sais pas très bien à quoi comment on va y répondre, mais beaucoup de spécialistes en tout cas considèrent que le vecteur intermédiaire qui devrait intervenir, c'est l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène plutôt que l'électricité? Parce que l'hydrogène, on peut stocker. Le gros problème de l'électricité, c'est qu'on ne veut pas le stocker. Donc, ne pouvant pas le stocker, effectivement, on a du mal à l'utiliser. Enfin, on le stocke, mais dans des quantités très limitées, à l'évater. On a du mal à l'utiliser de façon importante dans les systèmes mobiles. L'hydrogène, par contre, on peut imaginer le stocker sous différentes formes. Alors, à partir de là, comment on l'utilise dans les systèmes, par exemple, dans les transports? Aujourd'hui, la réponse n'est pas évidente. On peut soit utiliser des piles à combustible en brûlant de l'hydrogène directement. Ça va demander quand même tout un système de transport, distribution d'hydrogène, c'est pas évident. Soit au contraire, on repasse par un carburant de substitution, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'hydrogène et le carbone, on refait un carburant, préférence un carburant léger, liquide, et qui permettra de retrouver les circuits habituels. Tout ça est en cours de gestation, en particulier dans le monde des pétroliers. Mais ce qui est sûr, c'est que si on passe par l'électrolyte à hydrogène, il faut pouvoir produire des quantités importantes d'hydrogène et pouvoir les produire autrement qu'en les prenant les combustibles fossiles. C'est pour extraire l'hydrogène du méthane comme on fait aujourd'hui, on peut arriver tout de suite, ça n'a aucun intérêt de s'envoyer le méthane directement. Donc, il faut l'extraire en cassant l'eau. La seule solution de faire l'hydrogène proprement, c'est de casser la molécule d'eau. Et pour casser la molécule d'eau, il faut de l'énergie, évidemment. D'où l'intérêt d'utiliser l'énergie nucléaire, entre autres, c'est pas forcément la seule, c'est quand même à peu près la seule qui pourra répondre massivement à la production d'hydrogène si on est vraiment sur des quantités très importantes. Alors, à partir de là, on a plusieurs possibilités pour casser la molécule d'eau. On peut le faire électrolytiquement, c'est de l'électrolyte, c'est connu. Bon, le problème, c'est qu'il faut investir pour faire l'électricité, puis ensuite, il faut investir pour casser pour utiliser l'électricité pour casser l'eau. Puis en plus, si on fait ça à des températures relativement basses, le rendement n'est pas terrible. Donc, on regarde d'autres solutions. Il y a des cycles chimiques qui permettent de répondre à la question. Et puis, il y a aussi des sites hybrides de différents modèles. Puis ensuite, on peut monter l'électrolyse à haute température. Donc tout ça, c'est des schémas qui sont en cours de... Enfin, ça, c'est un exemple de schéma de cycle chimique. Hein. C'est-à-dire qu'on va mélanger, finalement de l'iode et un sulfate. Et on va finalement créer de l'acide sulfurique et de l'acide ionique. Et après, on décompose séparément l'acide sulfurique et l'acide ionique. Et comme ça, on récupère l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre. Alors, l'oxygène, on n'a pas besoin, mais on le rend à la nature. Et par contre, l'hydrogène, crac, c'est ce qu'on veut utiliser. Bon, le problème, c'est que dans ces réactions-là, dans toutes ces réactions-là, il faut de la chaleur. Il ne faut pas simplement de l'énergie, mais il faut de l'énergie à haute température. Et en particulier, pour la décomposition de la molécule d'acide sulfurique, il faut de l'énergie à 850 degrés minimum, donc ça commence à être un peu plus compliqué. D'où l'intérêt d'avoir des réacteurs à haute température pour pouvoir tester ces procédés-là. Et c'est la raison pour laquelle le réacteur à très haute température, bien qu'utilisant un cœur classique, c'est-à-dire un peu comme les réacteurs à eau qui ne consomment pas très bien l'uranium, est quand même dans les systèmes de 4e génération parce qu'il va nous permettre de tester tous ces systèmes de production d'hydrogène de manière plus générale, l'utilisation de la chaleur à haute température. Alors, il y a beaucoup de pays qui s'y intéressent, comme vous pouvez le voir là, et ces réacteurs à très haute température, là aussi, ce n'est pas tout à fait quelque chose de tout à fait nouveau. Là, j'ai pris, par exemple, le prototype que les Américains avaient construit dans les années 70, qui était effectivement un réacteur de 300 MW, qui était déjà, effectivement, à haute température, il fonctionnait à 800 degrés, bon, et avec refroidissement à l'hélium, enfin, tout classique. Donc là encore, ce qui est nouveau, c'est la manière de le faire, et on en attend. Alors il y a d'autres prototypes, il y a des réacteurs expérimentaux qui existent, il y en a un au Japon, il y en a un en Chine. Bon, en Europe, ils ont été arrêtés, ceux qui existaient. Et puis il y a le projet sud-africain. Le projet sud-africain, vous avez probablement entendu parler les uns ou les autres, le projet PBMR, qui est basé d'ailleurs sur la conception allemande des réacteurs à haute température des années 60-70, qui est une conception un peu particulière, puisque le combustible est sous forme de boulets. On met des boulets dans une cuve, et puis... c'est ces boulets qui finalement assurent le maintien du combustible et le refroidissement, le gaz circule à travers les boulets. Alors ça a des avantages et des inconvénients, ça a un avantage de simplicité de structure, pour les hautes températures c'est pas négligeable, ça a l'inconvénient par contre que ça limite la puissance, on est forcément à des petites puissances pour arriver à répondre à la question. Bon, toujours est-il que c'est pour dire que finalement les réacteurs à haute température, on a déjà fait, on a des projets en cours, mais là encore pour arriver vraiment à un système de 4e génération, ce qui nous intéresse c'est pas seulement le réacteur, mais c'est un réacteur qui soit associé à un système de production d'hydrogène et donc qui soit en particulier en température capable de fournir la chaleur qui est nécessaire pour le fonctionnement de ce circuit de ce système de 4e génération. Bon, je mentionne également rapidement le réacteur eau supercritique. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'eau supercritique effectivement permet avec l'eau, bon, on a un point limite à 376 degrés au-delà, alors finalement on n'a plus ni eau liquide ni vapeur, on a effectivement un fluide supercritique, si on continue à appuyer dessus, hein, si on monte en pression, on va monter en pression et en température, et on passe effectivement à un fluide supercritique. Alors ce fluide supercritique, il a des avantages, encore une fois, il se comporte à peu près comme un gaz, il a une densité un peu plus élevée, il a une densité qui n'est pas loin de celle d'un liquide, et donc ça permet effectivement de faire un certain nombre de choses. Alors l'inconvénient, enfin, il y a deux inconvénients, au moins deux problèmes à résoudre. Le premier, c'est que c'est quand même extrêmement agressif, un fluide supercritique, donc il faut voir les problèmes de corrosion tout ça, qui vont apparaître là-dedans. Et puis le second, bah, c'est qu'effectivement, puisqu'on est en situation supercritique, ça veut dire qu'on peut repasser soit en gaz, soit en liquide. En gros, si on perd la pression, on passe en gaz, si on perd la température, on passe en liquide. Donc, ça veut dire qu'au point de vue des risques, et donc de tout ce qui doit être mis en œuvre pour protéger contre les risques, eh bien, il faut prendre en compte cette double situation. Bon, et puis le réacteur à turbine fondue, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un système un petit peu plus exotique. L'idée, c'est d'avoir un combustible liquide, cette fois, de façon à pouvoir le retraiter au fur et à mesure, extraire tout ce qui peut être recyclé, et le recycler directement dans le réacteur. Alors c'est vraiment un réacteur qui, sur le papier, effectivement, a beaucoup d'avantages. La réalisation pratique est extrêmement compliquée. Enfin, j'ai déjà mentionné, mais je rappelle que finalement, on a une dernière préoccupation finalement à cette affaire, qui est quand même d'essayer de développer aussi des technologies aussi robustes que possible, en particulier pour les pays émergents. Aujourd'hui, vous avez vu dans le tableau du scénario que j'ai dit au début, finalement, la croissance du nucléaire dans les 3 ou 4 prochaines décennies, elle va être encore dans les grands pays industrialisés, en Amérique, en Europe ou en Asie du Sud-Est. Et puis, elle va être dans les deux grands pays en développement, la Chine et l'Inde. Quoi. Ailleurs, ce sera encore très modeste. Mais par contre, dans la seconde moitié du siècle, là, les choses devraient être très différentes. Quand on voit actuellement les pays qui s'intéressent aujourd'hui, les pays qui viennent à des conférences en disant « Mais nous, on voudrait bien regarder comment implanter du nucléaire. » Pas tout de suite, bien sûr, dans 20 ans, dans 30 ans, mais il faut qu'on commence à se préparer. Et ils ont raison, il faut se préparer, parce que c'est pas si simple. Eh bien, on en trouve très vite une liste assez importante, et avec des pays qui sont appelés à jouer un rôle moins important au plan mondial, l'Indonésie, le Mexique, Donc, la préoccupation aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, pour les pays émergents, il faudrait quand même démarrer avec des technologies plus robustes, parce que plus on va vers la sophistication, évidemment, plus c'est adapté à des pays qui ont déjà tous les moyens, à la fois pratiques et intellectuels, de gérer des systèmes très complexes. Hein. Et si on veut redémarrer dans un pays qui n'a pas la même expérience, qui n'a pas forcément le même niveau de formation des équipes, etc., il faut repartir avec des systèmes plus robustes. Alors, dans l'ordre des choses, finalement, on dit, finalement, d'abord, il faut quand même qu'il y ait la résistance aux risques de prolifération. Si on met ça dans les pays émergents, bon, encore une fois, les pays, la stabilité politique, tout ça, on ne sait pas trop. Donc, il faut qu'on soit aussi propre que possible, aussi au plan de la prolifération. Il faut bien sûr un haut niveau de sûreté. En partie intrinsèque, ce qu'on appelle intrinsèque, ça veut dire que c'est de la sûreté qui vient d'elle-même, si je puis dire. Par exemple, quand on a un système de poison pour arrêter le réacteur, si le système de poison est pendu à un électroimant, quand on perd le courant, le système ça se met dans le cœur tout seul. Ça, c'est de la sûreté intrinsèque. C'est de la sûreté qui ne nécessite pas une intervention externe. Bon, maintenant, simplifier, ça c'est une autre préoccupation. Si on a des pays effectivement qui sont en cours de développement ou qui démarrent seulement sur le nucléaire. Et puis, bien entendu, la compétitivité économique, mais dans les conditions mêmes où on veut l'utiliser. La compétitivité économique, ça ne veut rien dire. Quand on dit, le nucléaire, c'est moins cher ou c'est plus cher que quoi hein, ça dépend, une centrale de 1500 MW, c'est plus cher ou c'est moins cher qu'une centrale de 300 MW. Oui, mais dans quelles conditions? Si finalement, c'est pour utiliser la centrale de 300 MW dans un réseau de grande puissance, c'est évident qu'elle est plus chère que la centrale de 1500 MW. Si c'est pour la mettre dans un réseau isolé qui ne dépasse pas 500 MW, on peut même faire une centrale de 500. Donc tout ça, c'est des comparaisons économiques qui ne sont pas faciles, mais qui doivent être reprises en fonction des conditions de chaque cas particulier. Et puis, on a quand même déjà, vous voyez que ce processus de mise au point des systèmes de quatrième génération, il va s'étaler sur 2 ou 3 décennies. Ceci étant, on commence déjà par être prototype. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de démonstrations, on a besoin de démonstrations intermédiaires dans un développement de cette ampleur, et on a besoin de démonstrations qui soient aussi proches de la réalisation finale que possible. Hein, d'où l'idée de prototype. Alors des prototypes, il y en a déjà plusieurs qui sont actuellement dans les cartons, si je puis dire, c'est-à-dire qui ont été annoncés même, par les différents pays concernés. Il y a un prototype aux États-Unis d'un réacteur de très haute température qui avait été annoncé en 2003-2004. Lorsque l'administration actuelle de président Bush avait annoncé un grand programme d'hydrogène, ils ont annoncé effectivement la réalisation d'un réacteur prototype sur le site d'Idaho. Donc actuellement, les études de faisabilité sont en cours. Il y a trois prototypes de réacteurs à neutrons rapides qui ont été annoncés plus ou moins récemment depuis le début de l'année dernière. Bon, en France, celui qui a été annoncé par Chirac en janvier 2006 et qui en même temps répond aux demandes de la loi de juin 2006, puisque la loi de juin 2006 sur les déchets dit qu'on devra apporter en 2020 la démonstration de la capacité à brûler les fameux actinides. Donc ce prototype doit répondre à ça. Bon, les Américains ont un prototype maintenant qu'ils sont venus à une conception du cycle qui est proche de la nôtre, c'est-à-dire de faire du retraitement et de brûler le plutonium et les actinides. Ils ont un prototype qui est également programmé à échéance 2020. Les Japonais, je vous ai montré tout à l'heure le projet qu'ils ont développé déjà maintenant depuis quelques années. Ils veulent faire un prototype et ils se sont fixés plutôt l'horizon 2025. Bon, enfin bon. Donc tout ça est en cours de discussion, tout ça va évoluer. Mais vous voyez que la recherche et le développement doit permettre de mettre au point des solutions technologiques. Les prototypes vont permettre de les tester au fur et à mesure. Et de les tester à relativement grande échelle avant de passer à des applications industrielles qui devraient démarrer en gros entre 2030 et 2040, suivant les pays, suivant les besoins. Mais on est sur ces calendriers-là. Donc la conclusion, c'est encore un proverbe, mais c'est chinois. Hein, le proverbe chinois, il est simple, c'est que la meilleure période pour planter un arbre, c'était il y a 100 ans. À défaut, si vous ne l'avez pas planté il y a 100 ans, vous pouvez empêcher de le faire maintenant. Quoi. Donc le nucléaire, si on en est à peu près là.
Merci, monsieur le ministre. Donc, j'avoue mon admiration devant votre esprit de synthèse parce que le morceau était copieux et vous avez réussi en 1h15 à nous survoler ça, pas dans le sens péjoratif du terme, mais disons de nous donner tous les aspects du problème. Donc, maintenant, c'est la traditionnelle série des questions-réponses. Donc, y a-t-il des questions ? Oui, attends, je file le...
Oui, vous avez projeté un flash du début que l'on prenne l'évolution de l'énergie dans le temps. Et j'espère, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais j'ai vu que le charbon diminuait à partir de 2030. Alors qu'on sait que le charbon, il y en a, c'est les plus grandes réserves, environ 200 ans. Comment se fait-il que ça diminue à partir de 2030?
Alors l'hypothèse est simple, c'est que le charbon est quand même le plus gros contributeur à l'effet de serre aujourd'hui. Donc c'est sur lui qu'on va tirer, j'allais dire, en premier. C'est des hypothèses de scénario, hein. Moi, je n'ai pas ma main coupée, hein, mais hypothèse de scénario. Alors, les défenseurs du charbon ont une contre-attaque avec la séquestration du CO2. Vous savez que, effectivement, bon, la séquestration du CO2, il faut travailler dessus, de toute façon, c'est une hypothèse. Enfin, ce sera certainement coûteux. À supposer qu'on arrive vraiment à le faire complètement, ce sera certainement coûteux. Donc, quand les inflexions qui sont indiquées là ne sont pas tout à fait au hasard. C'est quand même parce qu'il y a en particulier des déclarations assez fermes côté américain. Les Américains sont actuellement les deux gros contributeurs de CO2 liés à la combustion du charbon, c'est les Chinois et les Américains. Bon, les Chinois, c'est bien connu, c'est relativement récent, ça va en grandissant. Et les Américains, alors en Europe, c'est les Allemands et les Danois. Hein. Au passage, les deux grands contributeurs de CO2 d'Europe, c'est les Allemands et les Danois, il faut le savoir, parce qu'on vous les cite toujours en exemple pour l'écologie, mais c'est quand même les deux gros contributeurs. Donc les Chinois et les Américains, ont très clairement dit, nous, on va réduire. On va réduire, faut le temps de se retourner, tout ça va pas aller vite, 2030, c'est un objectif, mais très clairement, l'objectif, ce n'est pas lié à la ressource, il est vraiment lié à la production de CO2.
Est-ce que le problème des déchets nucléaires, finalement, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre de prototypes qui prévoient le recyclage, mais est-ce qu'on ne le prévoit pas systématiquement dans tous les cas de figure?
Alors,
le recyclage des déchets longue vie, bien sûr.
Le recyclage des déchets longue vie, effectivement, encore une fois, ça, faut bien comprendre. Hein. Dans le combustible des réacteurs nucléaires, bon, quand on a la fission, on fait des produits de fission, ceux-là, mais il y en a quelques-uns qui ont des longues vies, pas énormément, mais il y en a quelques-uns, ceux-là, on n'y peut rien. Ils ont été créés, il faut vivre avec. Par contre, en même temps, le neutron crée effectivement du plutonium, du magnésium, du beryllium, enfin différents actinides, et c'est ceux-là qu'on veut brûler au maximum dans les réacteurs neutrons rapides. Alors pourquoi on dit on va le faire en quatrième génération? Parce que les réacteurs actuels ne peuvent pas le faire. À l'heure actuelle, on le sait, on a vu, on peut recycler un peu le plutonium, mais on ne brûle pas complètement. Et les autres actinides, ça ne marche pas très bien. Donc, on est obligé d'attendre quand même les systèmes de quatrième génération. Ce n'est pas très gênant parce que, à l'échelle macroscopique, si vous voulez, ce qu'on a déjà produit comme actinide est relativement faible actuellement. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de trouver un système qui soit aussi optimisé que possible pour faire face à une production beaucoup plus large qui sera celle de, à partir du milieu du siècle. Alors, si ça marche, normalement, dans les systèmes de quatrième génération, ça marchera. Pourquoi on fait des prototypes pour ça? Simplement pour voir si la solution technique de détail qu'on adopte, le type de combustible, la manière de le mettre, etc., est la bonne. On a des choix, comme toujours, de ce point de vue-là. Mais on trouvera la solution. Donc on les brûlera, de toute façon. Alors, certains disent, ah, mais ça m'a coûté très cher, parce que le recyclage de ces noyaux en faible quantité va coûter beaucoup plus cher. Pas du tout, on ne sait pas. Non, on pense même que la mise au point permettra d'avoir des procédés qui ne sont pas plus coûteux que les procédés actuels. Donc tout ça, c'est encore une fois, il faut faire confiance au développement. Quand on est face à un problème physique de base, par exemple, on ne peut pas augmenter la consommation d'uranium par les réacteurs à eau, parce que c'est comme ça, c'est le problème physique de base. Mais par contre, une fois qu'on sait que physiquement on peut brûler les actinides, les solutions technologiques, y compris pour que ça ne coûte pas une fortune, on va les trouver. Hein.
Pour l'énergie du futur, finalement, il y a, on peut considérer que la quatrième génération de ces réacteurs sera une solution du futur, associée à l'énergie nucléaire de fusion qui doit arriver également dans les années 2050. À ce moment-là, les réacteurs de la quatrième génération, finalement, ne seront pas une énergie renouvelable puisqu'il faudra de l'uranium. Et enfin, ils pourront, jusqu'à cette date-là, finalement, éviter l'effet de serre.
Bon, d'abord, deux choses là-dessus. Là. Vous avez tout à fait raison, la fusion va venir à un moment ou à un autre. 2050, peut pas être trop optimiste. Hein. Enfin, bon, le jour où la fusion viendra, elle sera bienvenue, parce que même si on met, vise 20% de fission dans la production d'énergie, on a encore à compenser tout le reste. Hein, la disparition du pétrole qui viendra à la fin du siècle, la disparition du gaz, etc. Donc il y a de la place pour tout le monde, hein, largement. Donc, par contre, sur la quatrième génération, les réacteurs de la quatrième génération vont devenir extrêmement peu consommateurs d'uranium. Ils recyclent sans arrêt, quoi. Et donc, pour vous donner un exemple, l'uranium, car en France, actuellement, on a enrichi l'uranium pour faire fonctionner les réacteurs à eau, donc on laisse de côté l'uranium de 99%, disons qu'on ne l'utilise pas. Avec le stock qu'on a aujourd'hui en France, si on met des réacteurs neutrons rapides à la place de nos réacteurs à eau, on a 5 000 ans de fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on a de ce qu'il était aujourd'hui en France? Donc, je veux dire, à ce moment-là, la ressource n'est plus une limite. Et par contre, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas. Il y aura de la place pour tous ceux qui seront encore utilisables. Disons, le charbon, on n'arrêtera pas de l'utiliser comme ça du jour au lendemain, même si on essaie de le réduire au maximum. Bon, la fusion, quand elle viendra, bah, tant mieux, parce qu'encore une fois, il ne restera pas grand-chose comme pétrole et comme gaz. Et puis les renouvelables, ce qu'on arrivera à faire, bah, ce sera toujours ça le prix. Hein. Les renouvelables, c'est pas, il n'y a pas un espoir infini sur les renouvelables, donc il y a quand même des choses sérieuses qui peuvent être faites.
Le délai pour ces réacteurs de la quatrième génération, c'est quoi,
2010, 2020? Ah non, c'est 2030-2040. L'industrialisation, c'est pas avant 2030-2040. Mais encore une fois, d'ici là, on n'est pas embêté, on a la troisième génération, on construira un millier de PR s'il faut, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on ira jusque là, on aura peut-être des concurrents.
Le seul problème, c'est qu'on a les
écoles
sur les
gros terres. Oui, mais bon, ça je dirais que, vous savez, bon. Non mais c'est vrai qu'on ne peut pas construire du nucléaire contre la volonté des populations. Donc il y a des pays en Europe en particulier qui pour l'instant ont renoncé à cause de ça. Changeront-ils ou changeront-ils pas d'avis? L'économie peut amener un moment quand même à considérer, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, le choix de ne pas faire du nucléaire coûte cher. Mais bon, il y a 30 ans qu'il faudra pour changer, s'ils ont envie de changer. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui en France, on a une situation où certes, il y a effectivement des mouvements écologistes qui ne sont pas d'accord, mais globalement, finalement, il n'y a pas une opposition massive au nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il a quand même beaucoup d'avantages.
Oui, j'ai plusieurs observations à faire. Lors de la canicule, on a vu que l'eau est un facteur limitant à l'énergie nucléaire. Et si on multiplie les réacteurs, je suppose que ça sera un facteur de plus en plus limitant. Le problème de l'eau est un problème important pour l'humanité. On ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller, mais il y a un facteur à ce niveau-là qui est limitant. Donc le nucléaire est sensible aux évolutions climatiques. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que je préfère pour les générations futures qu'on apprenne à stocker le CO2 plutôt que de produire des déchets dont on ne saura jamais bien se débarrasser. Ça, c'est la deuxième observation. La troisième, c'est que quand on voit dans vos graphiques la part du nucléaire dans l'énergie, finalement, elle est très minoritaire. Et on se demande s'il faut consacrer dans les ressources de recherche autant d'argent dans la recherche sur ces énergies nucléaires et s'il ne vaudrait pas mieux consacrer plus d'argent à d'autres formes d'énergie, si ça ne serait pas plus intéressant pour l'avenir et pour l'humanité. Voilà mes trois
points. Alors, rapidement sur les trois points. Sur le premier, c'est vrai que le nucléaire a besoin d'eau de refroidissement, pas plus que les centrales au charbon, ou que les centrales au pétrole, ou que les centrales au gaz. Le problème, c'est que toutes les centrales qui font de la conversion d'énergie ont besoin effectivement de refroidissement. Alors, ceci dit, le nucléaire en France, on a l'avantage qu'il y a les trois systèmes de refroidissement, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont sous la rivière directement, certains qui sont en bord de mer, et certains qui sont sur des refroidissement, c'est-à-dire finalement des systèmes qui consomment très peu d'eau. Donc, avec les trois, on fait face à peu près à toutes les situations climatiques. Encore une fois, le nucléaire n'a pas été plus touché que toutes les centrales thermiques. Les centrales thermiques
sont plus touchées. On a quand même dû arrêter les réacteurs
mécaniques. Les pays qui avaient des centrales thermiques ont arrêté les centrales thermiques, bien sûr, pour la même raison. Donc, c'est rien de particulier du
nucléaire. Oui, enfin, c'est moins dangereux d'arrêter une centrale thermique qu'une centrale nucléaire.
Si vous dites que les centrales nucléaires ne sont dangereuses qu'à l'arrêt, moi je veux bien. Bon, ok. Sur le bon point, alors là, vous me dites, moi je préfère le CO2 que les déchets nucléaires. Ben,
je vous laisse respirer.
Hein.
Je préfère qu'on stocke, j'ai pas dit ça, oui. soyez honnête. Oui. J'ai dit, je préfère qu'on stocke le CO2, qu'on apprenne à le stocker, plutôt que de donner à nos générations futures des déchets nucléaires.
Non, mais bien sûr,
voilà.
J'ai bien compris.
Donc, j'ai dit ça, j'ai pas dit autre chose.
Non, on préfère stocker le CO2 que stocker les déchets nucléaires. Ça se faisait, je veux bien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Moi, je sais pourquoi, parce que le CO2 stocké est vraisemblablement moins dangereux que les déchets nucléaires du point de vue biologique pour les générations futures, c'est tout.
Bien sûr, je suis sûr de ça.
Il n'y a qu'à voir les procédures que l'on utilise pour les déchets nucléaires pour voir qu'ils sont dangereux.
Non, mais justement, on a des procédures parce qu'on est sérieux. Bon, alors sur le dernier point, reprendre le débat sur l'importance. Moi, je vous l'ai dit pour le situer au début. Hein, l'importance de l'énergie nucléaire, actuellement, c'est l'hydraulique dans le monde, c'est la même chose. Toute l'hydraulique, c'est l'équivalent de l'énergie nucléaire. L'hydraulique, c'est 95% d'énergie renouvelable dans le monde si on ne compte pas le bois. Si on ne compte pas le bois en utilisation directe. Hein, l'énergie qui permet de produire de l'électricité. Donc voilà, moi, je veux bien. Hein, si vous dites que c'est négligeable, c'est-à-dire que l'hydraulique est négligeable et que tout le reste des. Les énergies sont encore plus négligeables. Non, je crois qu'il ne faut pas aller débat là-dessus. Alors, sur les dépenses de recherche et développement qui sont appliquées à chaque catégorie d'énergie, de production d'énergie, il y a des statistiques, moi, reportez-vous aux statistiques européennes, il y a des statistiques qui ont été faites par la Commission européenne qui reprennent froidement les dépenses de recherche et développement dans les différents pays en fonction des sources d'énergie et en appliquant le ratio recherche et développement sur production d'énergie. Vous verrez que le nucléaire n'est pas si mal placé que ça.
Vous avez très bien expliqué que la première génération, il y avait des réacteurs un peu de tout type, c'était un peu le balbutiement, et puis on est très vite passé à, finalement à deux types, à la fois pour la deuxième et la troisième génération. Et vous montrez que la quatrième génération, là, on part avec pas mal d'idées, c'est formidable. Et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, à votre avis? Bon, bien sûr, il va y avoir en grande quantité à construire, vu ce que vous avez montré, mais est-ce qu'on va aller vers une sélection très active, qui sur le plan industriel est toujours une source d'économie, ou au contraire, on va partir parce qu'il y a des productions aussi différentes. Vous avez montré qu'il y avait peut-être besoin d'hydrogène, d'électricité, et peut-être d'autres choses qui arriveront. Est-ce qu'on va partir sur des réacteurs un peu de différents types dans cette quatrième génération en type industriel?
Tout à fait. Alors, effectivement, actuellement, on est encore une fois en début de phase de recherche et développement, donc on laisse volontairement le sujet assez ouvert, hein, parce que l'inconvénient dans la recherche, c'est bien connu, c'est qu'on va dans certaines voies, puis on n'aboutit pas forcément aussi, de manière aussi satisfaisante, du moins qu'on souhaiterait. Donc parmi ces voies de recherche et développement qui sont ouvertes, toutes n'aboutiront pas forcément à la même vitesse, toutes n'aboutiront pas forcément dans des conditions aussi satisfaisantes. Alors par contre, l'objectif est quand même inversement d'éviter de faire trop vite de la sélection, parce qu'on peut se tromper, c'est déjà arrivé. Et puis ensuite, parce que finalement, c'est pas si simple que de dire si on a une seule option, ça se permet de standardiser. C'est vrai qu'il faut standardiser, mais c'est vrai aussi que tout le monde aime bien garder un choix. Si vous regardez justement ce qui s'est passé sur la seconde génération, c'est très typique. Finalement, on a gardé des réacteurs hauts, parce que c'est la technologie qui était mûre à l'époque, quoi, hein. Mais on a gardé finalement mondialement deux versions complètement différentes, de réacteurs hauts suppression, de réacteurs hauts bilan. On aurait pu dire, non, pour souci de simplicité quand même, allez, on tire au sort, à défaut de savoir quel est le meilleur, on tire au sort, on n'en garde qu'un. Quoi. Non, on en a gardé deux, et tout le monde est content. Et les électriciens adorent ça, parce qu'ils peuvent faire des compétitions, peuvent demander des devis à chacun des deux, puis voir comment ça se passe, etc. Alors ça a été fait effectivement pratiquement dans le monde entier, chaque fois, pour choisir. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça a permis de montrer qu'on était incapable de choisir, de savoir quel était le meilleur des deux. Quoi. Donc on avait gardé un choix équilibré. Quoi. Donc, mentalement, c'est important. J'ai cité l'exemple tout à l'heure du sodium en disant finalement, après la personne a dit que le sodium était la très bonne solution, tout le monde est tombé dessus. Les gens ont horreur des solutions obligatoires. La solution unique et obligatoire, c'est l'horreur toujours. Donc on garde les options ouvertes en partie pour ce point-là. Mais quand même, encore une fois, le plus important, c'est que dans un programme de recherche appliquée sur le long terme comme ça, il faut éviter de faire ce qu'on appelle la down selection, de réduire les options dès le départ, parce qu'on peut se tromper massivement. Mais à la fin, on sera bien content si on a deux systèmes qui vont faire de la... Ah ben après, oui, si un choix, après on laisse le choix à celui qui va le faire. Oui.
Bien, merci Monsieur Bouchard. On peut l'applaudir encore. On attendait votre intervention avec impatience. C'est pas de la patience, c'est avec impatience. Donc, quelques petites infos complémentaires. Monsieur Bouchard nous a apporté des revues du CEA, clés du CEA. Évidemment, on ne va pas les distribuer, mais disons, elles sont visibles au secrétariat du TB. Et son secrétariat, à ma demande express, nous a envoyé des monographies sur justement toutes les solutions, parce que là, il n'en a montré que 6. Il y a un arbre généalogique de toutes les solutions qui a été tracé. Donc, vous voyez le nombre d'idées, il y en a beaucoup plus que 6. L'imagination des ingénieurs est sans limite. Hein. Toutes l'évolution des idées est dans ce bouquin. Et celui-là, c'est une monographie sur les réacteurs HTR à haute température. C'est très technique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir les consulter et si ça vous pouvez les acquérir auprès de la documentation du CEA. Mais voilà. Merci d'être venu. Il n'y a plus qu'à réussir le dîner et la journée sera un succès.